Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Nicolas Delmas. Porter son regard cette semaine sur cet extrait d'un jeune homme à la recherche de l'amour d'Isaac Bashevis Singer, paru en 1969. L'homme est le seul parmi toutes les créatures vivantes à avoir honte de ce qu'il est. Toute la culture humaine n'est qu'un gigantesque effort pour se dissimuler et s'embellir, une immense et complexe feuille de vigne. Écrivain, journaliste, chroniqueur, biographe et membre de l'Académie Goncourt, notre invité collabore à la revue L'Histoire et à L'Express, enseigne à Sciences Po et alimente un blog aussi foisonnant qu'érudit sous le titre La République des Livres. Son dernier roman, Le Paquebot, vient de paraître chez Gallimard.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour Eva Bester.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Finalement, oui.
Ah, mais finalement, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas un fait acquis, il y a eu un combat.
Oui, non, mais parce que parfois les temps sont difficiles, et donc on se dit, on pense à la... À l'insipide, voilà, j'ai commencé à citer, mais peu importe.
Allez-y, citons.
À l'insipide de Céline, c'est naître qu'il n'aurait pas fallu.
Oui, de l'inconvénient d'être né de Sioran.
Et aussi, oui. Mais non, finalement, c'est une très bonne chose. Enfin, en ce qui me concerne.
Donc, mais j'ai l'impression que ça s'adoucit avec le temps, puisque vous dites finalement, c'est-à-dire que dans la temporalité, ce n'était pas...
Je suppose qu'avec l'âge, les choses s'adoucissent.
Ah oui.
En principe, on a moins d'agressivité, moins de violence vis-à-vis de l'ordre du monde, et qu'on, c'est pas qu'on se résigne, hein, pas du tout, mais on prend les choses avec un peu plus de sagesse, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que j'avais observé chez mes aînés, et chez d'autres, et puis finalement, c'est ce que je vis plus ou moins.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Eh bien, ça va.
Vous êtes un bon compagnon, pour vous ?
Eh bien, c'est-à-dire que quand je suis seul avec moi-même, c'est-à-dire très souvent, je suis sûr de ne pas être déçu, parce que je me connais. Et donc, il n'y a rien d'inattendu ou d'imprévisible, et je me tiens bien en compagnie.
Ce qui vous donne envie de vous lever, Pierre Assouline, c'est tout ce que vous avez encore à lire et à écrire avant la tombée de la nuit. Ça vous réjouit toujours ? Vous n'éprouvez jamais de paresse ?
Non. Surtout pas de paresse et encore moins de lassitude. Parce que j'ai souvenir de quelques-uns de mes amis, notamment Bernard Pivot, qui disait, moi, le jour où... Et Alain Decaux aussi, qui disait, le jour où je suis là de lire, j'arrête. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on a la chance de vivre dans un pays libre où on publie tout ce qu'on veut, où on publie énormément de choses traduites de l'étranger, et enfin de langues étrangères, et donc c'est inépuisable. Et puis il y a les classiques, enfin c'est inépuisable. Et ma curiosité est infinie. En fait, je fais partie de ceux, et c'est pour moi la définition des journalistes, hein, qui tiennent par leur curiosité. Tant que ma curiosité est là, intacte, j'avance. Le jour où elle n'existe plus, bien je stagne et je meurs.
Bon, ça, ce sera dans longtemps vu cette curiosité. Sur votre blog, on peut lire un texte que vous avez intitulé « De l'éloquence muette des bibliothèques créatrices » et vous écrivez ceci, Pierre Assouline. « Tout écrivain a commencé par être un lecteur. Souvent, il le demeure jusqu'à ses derniers jours. Les livres l'ont fait écrivain, ils ont façonné son imaginaire, son expérience de la vie a fait le reste en se frottant à ses lectures. Or, rien ne nous renseigne mieux sur ses lectures que l'exploration de sa propre bibliothèque, non pas tant l'examen de son inventaire que celui de ses livres même tels qu'il les a notés, rangés et dérangés. Quels livres trouve-t-on dans votre bibliothèque ? Quels sont les plus annotés et les plus abîmés ?
Ils le sont tous.
Tous.
Sauf la collection de la Pléiade.
Ah oui.
C'est le sanctuaire. Là, on ne touche pas. Il n'y a pas de stabilo, rien. Si quelqu'un met un coup de stabilo, je le vire. Non, à part la Pléiade, à laquelle je tiens énormément, depuis très longtemps, hein, depuis, c'est un cadeau de communion. J'ai reçu une dizaine de volumes quand j'ai fait ma communion. Et donc, j'avais 13 ans. Et ça a été le début de cette Pléiade. Et puis après, j'en ai acquis, j'en ai reçu, enfin, etc. C'est pour moi irremplaçable. C'est à la fois un outil de travail, évidemment, mais aussi un outil de lecture. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça se lit. La Pléiade, c'est pas fait uniquement pour tenir le mur.
Vous êtes membre de l'Académie Goncourt, vous avez donc un volume de lecture colossal chaque année. Vous ne pensez jamais que vous perdez des heures de vie en lisant de mauvais livres ?
Oui. Mais c'est pareil, moi vous savez, je mets tout ce qui est artistique sur le même plan. C'est pareil pour un film, pour une pièce de théâtre, pour une exposition. Tout récemment, j'étais voir une pièce de théâtre avec des amis, et en sortant j'étais furieux, parce que je trouvais ça vraiment, vraiment très mauvais, mais à tout point de vue. Et ils m'ont dit, mais pourquoi t'es en colère comme ça ? Et je leur ai répondu, parce qu'ils m'ont volé une heure et demie de ma vie, que je ne rattraperai jamais. Cette heure et demie n'a servi strictement à rien. Alors que j'aurais pu lire un livre, j'aurais pu tout simplement faire d'ailleurs une activité que j'aime beaucoup et qui m'apporte énormément, me mettre à une terrasse de café et regarder les gens passer. Ce qui est très enrichissant, sans rien lire. Juste à observer, et en écoutant aussi les conversations, j'adore ça. C'est donc, il n'y a pas que le livre, n'allez pas croire.
Je ne crois pas
C'est très important, évidemment. Mais ne rien faire, on croit qu'on fait rien quand on est à une terrasse de café. En fait, moi, je fais beaucoup, je m'imprègne.
Parlons écriture, Pierre Assouline, vous respectez le principe de Pline l'Ancien, d'ailleurs que Zola avait sur son bureau, je crois, « Nulla dies sine linea », aucun jour sans une ligne.
Oui, ça se trouve chez Baudelaire aussi, qui en avait fait son viatique. Oui, mais je peux ne pas écrire, hein, vous savez. Et d'ailleurs, la plupart des écrivains que je connais, qui sont des amis ou que j'ai interviewés, quand on leur demande « mais qu'est-ce que vous feriez si vous n'écriviez pas ?» En général, ils répondent « c'est pas grave hein, si j'écris pas ». En revanche, si je n'écrivais pas, je ne ferais que lire. Et je suis convaincu que la grande partie des écrivains sont d'abord de grands lecteurs. Et que c'est ça qui fait le sel de leur vie, sur le plan intellectuel et de la vie de l'esprit.
Dans un instant, il sera entre autres question d'air et d'angoisse, d'autrui, de légèreté de Churchill, Jean Moulin et Job, de Cervantes et Daudet, de Strauss ou Strauss et de Stephen Daldry. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Malik Djoudi, Sachi, dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Pierre Assouline.
L'angoisse est à la mode, paraît-il. Ce n'est pas une raison pour s'y intéresser, et même c'est au contraire une raison de ne pas s'y intéresser. Car personnellement, je ne m'intéresse à rien de ce qui est à la mode. Dans l'importance attribuée à l'angoisse aujourd'hui par nos contemporains, je ne vois rien d'autre que frivolité, sujet de conversation et galéjade littéraire. Ceux qui pérorent et dissertent le plus sur l'angoisse aujourd'hui ne sont nullement les plus angoissés. Et c'est même à cette discrétion qu'on les reconnaît, car le propre de la véritable angoisse, Kierkegaard l'avait vu, est d'être muette. L'angoisse qui pérore, l'angoisse qui gazouille et qui babille, comme celle de nos contemporains, est évidemment une plaisanterie littéraire.
Extrait d'un cours sur l'angoisse donné par Jean Kelevitch, et vous l'avez reconnu Pierre Assouline pendant l'extrait à la Sorbonne en 1953. Dans votre environnement, vous aimeriez changer deux choses, l'angoisse chez les autres et la qualité de l'air. Alors commençons par ce que Paul Valéry appelait son véritable métier, l'angoisse. C'est plutôt savoureux chez les écrivains comme matériau.
C'est un stimulant. C'est un moteur et un carburant à la fois. Mais quand on dit l'angoisse, très souvent, ça recouvre d'autres choses. L'angoisse qui est derrière la dépression, qui est derrière la mélancolie. C'est bon, il y a différents mots hein, pour la nommer. Mais alors, au terme d'angoisse, auquel Yankelevitch rend justice, hein, moi j'en préfère un autre, qui est l'intranquillité.
Comme Pessoa.
Oui. Je ne connais pas le portugais, mais je connais ce mot-là, desassossego, qui avait été magnifiquement traduit par la traductrice, je crois que c'est Françoise Leil, du livre de l'intranquillité de Pessoa, parce que ça veut dire beaucoup de choses. C'est un néologisme. Hein. Je le trouve doux, alors qu'il y a quelque chose quand même d'assez violent derrière tout ça, y compris derrière la mélancolie. Quand on dit à des gens qu'on peut mourir de la mélancolie et que dans sa phase extrême, elle mène au suicide. Il vous croit pas. Pour eux, la mélancolie, c'est un état comme ça, un petit peu. Ça peut être très très grave. Et l'intranquillité, ça me va mieux parce que ce n'est pas un terme médicalisé. Il n'est pas pathologique. Il ne fait pas appel aux médicaments. On peut vivre très bien avec. Et dans mon cas, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment beaucoup apporté, enrichi, et c'est fécond.
Mais c'est amusant que vous parliez de vous par rapport à cette intranquillité, Pierre Assouline, puisque dans vos réponses, vous dites « l'angoisse chez les autres », et j'ai cru que vous n'en souffriez pas personnellement. Vous êtes un angoissé, un intranquille ?
Non, pas un angoissé, mais un intranquille, oui. Oui.
Et vous êtes entouré de beaucoup d'angoissés ?
Bon, pas spécialement. Si, j'en ai dans mon entourage, mais j'observe ça chez les autres. Oui, oui. Et puis même parmi mon entourage, à la fois familial, très proche et même parfois amical, ça me frappe beaucoup. Mais alors je joue le rôle avec eux quand je leur fais remarquer. Ils me disent que je suis celui qui est calme. C'est le comble.
Dans votre roman Sigmaringen en 2014, vous écrivez « S'inquiéter seul, c'est précipiter l'angoisse, mais s'inquiéter à deux, c'est déjà se consoler. Vous êtes donc un bon consolateur ». D'après
oui,
ce que j'entends. Ben
manifestement, c'est ce qu'on me dit.
Dans votre dernier roman, Le Paquebot, à un moment, on reproche son pessimisme au narrateur et il répond « Par expérience, je ne fais que me préparer à l'incertitude ». Est-ce que vous êtes aussi un pessimiste ?
Non.
Non.
Non, non, moi je suis plutôt optimiste et parfois même on me reproche, un, d'être trop optimiste et deux, de ne pas être assez paranoïaque. C'est-à-dire que j'observe aussi que c'est très répandu, cette manière parfois un petit peu délirante, d'interpréter les réalités. Et bon, quand on dit parano, c'est à la limite, c'est amical, hein, c'est assez anodin, mais c'est vraiment répandu, alors qu'il y a des choses qui n'ont même pas besoin d'être interprétées. Il faut les prendre telles quelles, et pas seulement des choses, mais des mots, des réflexions, des attitudes. Or, aujourd'hui, on cherche toujours derrière ce que ça peut vouloir dire. Et ça, c'est peut-être un peu un travers de l'époque. Ça a toujours existé, mais je crois que ça s'est accéléré. Comme s'il y avait tout le temps une vérité cachée, née à la vérité qu'on vous livre. Ben non, il n'y a pas toujours quelque chose de caché. Quand vous dites à quelqu'un « j'ai envie de partir », c'est juste que vous avez envie de partir. C'est tout. Mais là, je n'ai pas envie de partir du tout. Hein,
J'espère. Concernant votre engagement, Pierre Assouline, vous dites « le bien-être des gens que j'aime exige un engagement de tout instant ». De tout instant, n'est-ce pas un peu trop ?
Peut-être, oui. Dès lors qu'il y a tout dans une phrase, c'est déjà trop. Vous savez, moi, il y a une expression que je déteste, qui est appliquée sur tous les sujets à tout propos, le monde entier. C'est-à-dire, à propos d'un livre, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès dans le monde entier. Chaque fois, je réponds, en Alaska aussi, vous êtes sûr ? Parce que le monde entier, ça n'a pas de sens. c'est pas possible.
C'est un raccourci, si jamais on devait utiliser uniquement les mots les plus précis, on parlerait difficilement.
Mais entre la précision absolue...
Et la généralité absolue.
Et la généralité absolue, il y a ce qu'on appelle le sens de la nuance et de la complexité, qui est juste au centre...
La littérature.
Et qui suffirait de dire, dans un grand nombre de pays, ça a été un succès.
C'est vrai, ce n'est pas plus long. Veillez-vous à votre bien-être, Pierre Assouline.
Ben, normalement, oui, comme tout le monde.
Non mais vous avez l'air, vous faites des réponses altruistes et c'est suffisamment rare pour être signalé.
Non, je n'ai pas l'impression, mais oui, mon bien-être, bah oui, je veux rester en bonne santé mentale, morale et physique, donc je fais en sorte que ça dure.
Vous dites dans vos réponses que vous aimeriez atteindre une certaine légèreté, la répandre autour de vous. Vous vous sentez plutôt comme un être léger ou plutôt dans la gravité? Ça peut être une gravité douce, un fatalisme?
Bien sûr. Non, mais c'est... La légèreté, je pense que c'est quelque chose, c'est un graal que tous les artistes cherchent. Et c'est drôle, je m'en étais aperçu. J'avais pris conscience de ça. J'avais suivi le tournage d'un film pendant un an, la fabrication d'un film pendant un an, qui était Germinal, de Claude Berry, qui était un ami. Et je me souviens un jour, on était derrière la caméra, le combo là, et on regardait, il y avait une scène où des jeunes se battaient. Et alors, je lui dis, tiens, c'est drôle. Il a fait faire la scène plusieurs fois. Et je lui dis, Claude, c'est drôle, ça me rappelle un film de Jean Vigo, Zéro de conduite. Et il me dit non. Zéro de conduite, la même scène, elle est d'une légèreté absolue. Là, c'est lourd, c'est laborieux. Et pareillement, même réflexion, Cartier-Bresson, que je voyais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Un soir, très tard, à 2h du matin, on parlait de peinture, de dessin, on était un peu bourré, faut bien le dire, chez lui. Et alors, il me parle de ses dessins, et je lui dis, oui, c'est intéressant, c'est bien, j'étais pas fan de ses dessins. Et puis, il comprend bien que... Et il se lève, il va chercher un grand livre, des dessins de Giacometti, qui était son grand ami, et qui l'admirait. On feuillette les pages, il me dit, tu vois, ça, c'est le génie absolu, parce que ça, c'est la légèreté absolue. Un trait, et ça y est, le dessin est fait, c'est la légèreté. Il me dit, moi, pour arriver au même résultat, il faut que je fasse ça, ça, et ça, et ça, et c'est laborieux. Eh bien, c'est toute la différence. Et ça m'avait marqué, et je pense que tous les artistes recherchent cette légèreté-là, qui va de pair parfois avec une certaine insouciance. Mais c'est pas facile. Hein.
Denrée rare, l'insouciance. Pierre Assouline, vous dites avoir raté le titre d'un livre de Duras, La vie matérielle. Qu'entendez-vous par là?
J'ai dit ça, moi?
Oui.
J'ai raté
La vie matérielle.
Oui. J'ai raté le titre, non?
Non, ça c'était pour crâner, je voulais vous montrer que je m'y connaissais en titre, voilà, qui est fait, et c'est un échec.
Oui, c'est bon. Un échec, oui. Mais c'est un beau titre.
Hein, c'est un très beau titre.
J'aime beaucoup Duras, mais je vois pas trop comment j'ai pu rater ça.
La vie matérielle? Non, pas le livre de Duras.
Non, la vie matérielle elle-même a ou raté, disons. C'est quelque chose, c'est une chose, la vie matérielle à laquelle je suis relativement indifférent. Et ce qui fait que je ne me suis pas enrichi sur ce plan-là et que c'est le cadet de mes soucis. Alors, quand on vit avec quelqu'un, qu'on a des enfants, on a une responsabilité au-delà des siennes. Donc, c'est pas très bien non plus. Il faut y penser, n'est-ce pas?
Alors la vie matérielle, peut-être l'avez-vous raté, Pierre Assouline. Pas la vie physique, en revanche, je pense au sport auquel oui. Vous dites tout de voix. Racontez-nous, à 14 ans, vous étiez tout maigre et votre père vous a dit de faire de l'aviron.
On passait en voiture sur le pont d'Anières et puis pont de Neuilly. Et on voit, comme ça par la fenêtre, des bateaux d'aviron magnifiques qui coulent sur la Seine, qui vont sur la Seine comme ça. Et donc on s'arrête. Et on regarde, et il me dit, mais tu veux toujours faire du sport? Je dis oui, parce que franchement, là, j'avais 14 ans, mais c'est comme si j'avais 11 ans. Et j'étais tout maigre, j'étais même rachitique. Il me dit, écoute, ça, c'est un sport formidable. Il n'en avait jamais fait. Hein. Il me dit, mais c'est un sport qui développe tout, qui est idéal. Et le samedi suivant, et je me suis présenté, et ils m'ont mis sur un bateau. Ils m'ont dit, bon, vous êtes trop petit, vous allez faire barreur pendant un an, parce que vous êtes léger. Donc je me suis retrouvé à donner des ordres à des gens de 25 ans qui étaient des baraques, pas possible. Donc déjà ça m'a appris à commander, alors que je n'osais même pas. Et ensuite, au bout d'un an, j'ai ramé, et j'ai ramé pendant 10 ans. Remarquez, je rame toujours. Hein. Non, c'est une autre histoire. Non, mais j'ai ramé 10 ans sur la scène, et ça m'a tout appris, parce que ça m'a appris la résistance, l'esprit d'équipe, l'obstination, l'endurance. Ça m'a formé moralement, j'allais dire ça m'a formé intellectuellement, mais je dois davantage, parce qu'après j'ai fait d'autres sports.
Hein. Le ski de fond, le judo, le karaté, le volley, le squash, et aujourd'hui la nage, la marche, le vélo.
Oui.
Le jeu de paume.
Le jeu de paume.
C'est-à-dire cette balle qui rebondit absolument partout sur les plafonds, les sols, les murs. C'est...
Oui, mais elle est lourde, hein. Vous savez, pour rebondir, il faut vraiment frapper. Oui, j'adore le jeu de paume et puis je nage en principe tous les jours.
Bravo. Je suis admirative.
Si je peux.
C'est une préoccupation qu'on retrouve dans le paquebot, le narrateur qui va à la piscine, soucieux d'entretenir sa mécanique générale.
Oui, parce qu'il faut. Sinon, ça casse. Hein. C'est. C'est comme l'imagination, il faut l'entretenir aussi, et ce sont des muscles tout ça. Et oui, non, c'est pour se sentir bien, c'est pas pour rouler des mécaniques sur la plage, c'est pour se sentir bien dans sa peau tout simplement, et ça permet après de faire mille et une choses, comme écrire par exemple.
Découvrons les êtres qui vous ont aidé à faire face au monde.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France.
Homme de lettres, puisqu'il était prix Nobel de littérature, avec un style et une drôlerie exemplaires, l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill sur les ondes de la BBC, le 21 octobre 1940.
Je fais partie des grands admirateurs français de Churchill, parce que je trouve que c'est un personnage extraordinaire, à tout point de vue, une vie très romanesque, avec des hauts et des bas, des traversées du désert, des coups de gueule, des excès. Enfin, il y a mille et une choses à raconter sur lui. J'ai eu le grand bonheur, il y a une vingtaine d'années, je collaborais beaucoup à France Culture à l'époque, de faire ce qu'on appelle une grande traversée. Et à l'époque, les grandes traversées, c'était 17 heures d'émission, c'est-à-dire une semaine, tous les matins pendant une semaine, avec des reportages, des enquêtes, des archives. J'ai adoré faire ça, adoré. Et on en a fait après, on a tiré un petit livre. Et c'est drôle que vous m'ayez changé, parce qu'en ce moment même, aujourd'hui, je travaillais dessus puisque on m'a demandé d'adapter la correspondance entre Winston et Clémentine, sa femme, pour le festival de la correspondance de Grignan. Et ça va être lu par des comédiens. Donc voilà, je travaille là-dessus. Mais je suis tout le temps dans Churchill parce que il me nourrit énormément. Et en même temps, il est très critiquable, très contestable par bien des aspects. Mais c'est ça qui est humain chez lui.
C'était pas un homme, vous savez, de... C'est drôle, c'était un méridional, mais c'était un méridional froid. Il en avait l'humour et la gaieté un peu désespérée. Mais c'était un homme plein de pudeur. C'est pas du tout un homme secret, mystérieux, comme on le raconte, pour essayer de trouver un sujet romanesque dans sa vie. Mais c'était un homme, oui, pudique.
Daniel Cordier au micro de Jean Lebrun dans Un Voix Nue sur France Culture en 2002, l'ancien secrétaire pendant la résistance d'un autre homme politique dont le côté artiste reste méconnu puisque Churchill pratiquait la peinture, lui le dessin. C'est l'homme que De Gaulle chargea d'organiser la résistance en zone sud pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin.
Ça compte beaucoup pour moi, Jean Moulin, et je suis très touché d'entendre la voix de Daniel Cordier que j'ai connu autrefois et que j'aimais beaucoup. Et non, Jean Moulin, ça reste un modèle, mais c'est pas le côté héroïque. Hein. C'est pas, je suis pas fasciné par les héros. Non, c'est justement ce qui m'intéresse chez Jean Moulin, c'est le côté non héroïque. Dans un livre qui s'intitule Rosebud, j'ai consacré un chapitre à Jean Moulin, préfet à Chartres, en juin 40. Quel est son premier acte de résistance ? Le suicide. Ce qui est quand même... c'est ça qui m'intéresse. C'est pas... Les héros m'intéressent moins que... je dirais pas les anti-héros, mais ceux qui ont une complexité telle, avec des contradictions, avec... parce que, bon, là, je vais dire quelque chose qui va sûrement scandaliser des gens, mais c'est que Daniel Cordier a révélé. C'est que, bon, comme on le sait, Jean Moulin, préfet, a été démis début novembre 1940. Mais avant d'être démis en tant que préfet, il a eu le temps d'appliquer le statut des Juifs dans son département, comme tous les préfets. C'est compliqué, l'occupation. On le voit à travers son cas. Mais j'ai une énorme admiration pour lui, et il y a un livre qu'il faut absolument que les gens lisent, qui est très peu connu, qui est peu diffusé, mais on le trouve en librairie, aux éditions de Minuit, il n'est pas en poche, ça s'appelle « Premier combat ». Et « Premier combat », c'est un texte que Jean Moulin a écrit, justement, quand il était préfet et que les Allemands arrivaient, et qui raconte ses premiers temps de l'occupation en France, et qu'il a enterré dans son jardin, que sa sœur Laure, après, a retrouvé, et qui a été publié bien après la guerre par Jérôme Lindon. Il faut le lire, ce livre, parce que il a à la fois une sensibilité, il a une force intérieure, et ça reste un modèle à bien des égards.
Pour la complexité des êtres, j'ajouterai comme recommandation l'un de vos ouvrages, Pierre Assouline, L'épuration des intellectuels, sur l'épuration des figures de proue, de l'écriture et de la pensée compromise entre Vichy et le Troisième Reich durant l'occupation. Il y a une anthologie qui s'appelle Occupation, de tous vos textes de fiction et les essais consacrés à cette période. Pourquoi une telle fascination ?
Ça vient de toute évidence, enfin ça je le sais avec le recul, hein, de mon père, parce que j'étais très proche de lui et... À 18 ans, il s'est engagé volontaire dans la France libre, l'armée d'Afrique, puisqu'il vivait en Algérie. Et donc il a fait 3-4 ans sous les drapeaux, débarquement en Provence, Monte Cassino, la libération de l'Alsace, l'Allemagne. C'était pas un héros, enfin c'était le mien. Mais l'important c'est que à partir de l'âge de 18 ans, quand je préparais mon bac, nous avons eu beaucoup, beaucoup de conversations sur la guerre. Parce que ça l'a passionné, puisqu'il l'avait vécu. Et puis moi, ça m'intéressait beaucoup. Et sa bibliothèque était quand même aux trois quarts pleine de livres sur la guerre. La Seconde Guerre mondiale, essentiellement. Donc, quand j'étais petit, je voyais les tranches des livres. Ça me parlait. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à en lire certains. Donc, j'ai beaucoup lu. Et là, il y a eu deux choses. Il y a eu un phénomène purement littéraire, où je me suis mis à lire les écrivains de l'entre-deux-guerres et de la guerre, mais surtout l'entre-deux-guerres, où pour moi il m'est apparu que le meilleur de la qualité française sur le plan littéraire, c'était quand même des écrivains de droite dans les années 30.
Oui, c'est vrai.
Que ce soit Giraudoux, Monterland et tous ces gens-là. C'était, et Drieu-La Rochelle.
Et le style était à droite.
Et le style était à droite. Alors ça fait hurler aujourd'hui, parce oui. qu'évidemment il y a Aragon, il y a d'autres, mais enfin, globalement, le style était à droite. Donc il y a eu cette prégnance littéraire qui m'a beaucoup influencé. Et d'autre part, à force de creuser dans l'occupation, dans cette histoire, notamment dans les archives, parce que je vais toujours aux archives, et aussi auprès des témoins que j'ai interrogés. La plupart sont morts aujourd'hui, mais il y a 30-40 ans, ils étaient là. Ce qui m'est apparu, c'est que pendant ces 4 années d'occupation, c'est très court, 4 ans, mais ça a été tellement intense que ça a été un révélateur. Ça a cristallisé chez tous les Français le meilleur et le pire en eux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu lâche en temps de paix, s'est retrouvé être très lâche sous l'occupation. Mais quelqu'un d'un peu courageux en temps de paix s'est retrouvé très très courageux. Chacun s'est trouvé radicalisé à l'intérieur de lui-même, dans son propre tempérament. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça a révélé le peuple français à lui-même.
Le livre de Job par le chœur grégorien de Paris sous la direction de Yannick Toulvet. Vous avez choisi cette figure biblique du juste, mis à l'épreuve par Satan avec la permission de Dieu, qui fait s'abattre sur lui toute une série de malheurs destinés à ébranler sa foi. Mais Job ne renie à aucun moment le nom de Dieu, ce que je trouve très surprenant.
Vous à sa place.
Oui, moi, tout de suite, moi-même sans torture, j'aurais tout de suite dit je renonce. Vous lui avez consacré un ouvrage, Vie de Job, et vous citez Lamartine, dedans qui prétend qu'en cas de fin du monde, il faut avant tout sauver son poème, car c'est un poème.
C'est un poème biblique qui m'a beaucoup marqué. C'est une figure légendaire, bien sûr.
Et de la résistance, à nouveau.
C'est à nouveau la résistance. Mais en fait, j'en ai plusieurs pour la résistance. Il y a Jean Moulin, il y a Job, il y a la chef de Monsieur Seguin, dont vous allez peut-être me parler. Sûr. Et puis, il y a aussi un poème de Paul Celan, qui s'intitule « Sterren ». Enfin, il n'a pas de titre, mais les titres des poèmes de Celan, c'est toujours les premiers mots. Donc « Sterren », parce que « Sterren », en allemand, c'est à la fois « tenir »,« se tenir » et « résister ».
Comme « stand » en anglais.
Voilà. Mais pourquoi, pour moi, c'est aussi important, cette idée de résistance? C'est tout simplement parce que, quand on dirige des gens, donc j'ai dirigé des rédactions,
lire
magazine littéraire, le plus difficile, c'est de dire non. Et la plupart des gens qui ont du mal à diriger des rédactions ou des entités, peu importe, c'est qu'ils n'osent pas ou ils ont du mal à dire non. Moi, dès que j'ai su dire non, je l'ai dit 400 fois par jour, tous les jours, et je me suis senti d'une liberté absolue. C'est là qu'on devient libre. Et pour dire non, ça s'apprend. C'est pas facile. Et donc, il y a des repères qui m'apprennent à résister et à dire non. Et ça en fait partie. Job, c'est quelqu'un qui dit non, qui refuse. Mais il ose dire non à l'Éternel. Faut quand même oser, hein. Le prendre à partie, regarder le ciel et lui dire, c'est injuste. Job, c'est le juste souffrant. Mais sa leçon, pour moi, elle est intacte. Il faut aimer Dieu sans rien attendre en retour. Surtout pas des bonnes actions, un enrichissement, non, rien. C'est toute la théorie de la rétribution.
Et c'est le véritable amour aussi, aimer mais oui, sans attendre en retour. faire, Yania, le morceau Stabilize dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Pierre Assouline. Dans votre panthéon d'êtres et d'œuvres se trouve le roman qui revient le plus souvent dans l'émission cette année, c'est Don Quichotte de Cervantes. Vous y faites allusion d'ailleurs dans votre dernier roman, Le Paquebot. Vous dites, on parle d'Albert Londres à ce moment-là, on fait une comparaison, et vous dites « Un Quichotte est un chevalier d'idéal dans une affirmation absolue de sa liberté ». On revient à ce que vous évoquiez, le fait de dire non à la liberté. Il en sera question aussi dans La Chèvre de Monsieur Seguin.
Oui. La chef de Monsieur Seguin, c'est, alors ça paraît bizarre de le dire comme ça, c'est mon livre de chevet. Enfin, je n'ai qu'un livre à mon chevet. C'est une plaquette, hein. C'est ce conte de Daudet. Parce que non seulement il m'a toujours ému, mais après il m'a fait réfléchir. Il y a une phrase de Blanquette que je n'oublie pas. Mon Dieu, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Ça, c'est une école de résistance. Écoutez, ça n'a l'air de rien, mais dans notre vie, on est tous confrontés à un moment ou à un autre, à un moment tragique, à plusieurs reprises parfois, c'est-à-dire à un moment où peut-être on risque notre vie, pour des raisons X. Eh bien, ça m'est arrivé, notamment à la montagne, dans une tempête, etc. Cette phrase m'a permis de surmonter les éléments déchaînés et d'aller plus loin. Et c'est pas la seule fois. Donc, une phrase peut sauver une vie. Parfois même un mot peut sauver une vie. Et moi, je dois à cette phrase-là d'avoir avancé quand tout m'indiquait que j'aurais dû peut-être me résigner parce que tout était fichu, quoi. J'étais cerné par une tempête qui rendait tout aveugle et très haut dans la montagne. Donc, oui, la littérature, ça aide à vivre, bien sûr. Ça aide même à survivre.
Car La Chèvre de Monsieur Seguin, pour les auditeurs qui ne l'auraient plus en tête, c'est une chèvre qui rêve de liberté, qui fuit l'endroit où elle
l'enclos,
vit.
L'enclos, elle est dans un enclos, ouais. Mais
le berger, Seguin, le berger l'enferme.
Et oui, il l'appelle à la prudence quand même, il dit, il y a le loup là-haut.
Oui, et toutes mes chèvres ont été tuées par le loup.
Et oui, mais...
C'est ce qui va lui arriver.
Et c'est ce qui va lui être fatal. L'appel de la liberté...
Alors où est la limite, Pierre Assouline, puisque...
Dans la sagesse. Dans la sagesse, dans la réflexion, dans le... Le pour et le contre, dans l'expérience.
La mesure.
La mesure, mais l'expérience aussi. L'expérience transmise. Je crois beaucoup à la transmission. Vous avez dit au début, Eva, que j'étais enseignant à Sciences Po. Je suis pas prof, hein. C'est pas mon métier du tout. Mais j'enseigne depuis très longtemps. Parce que j'ai le goût de cette transmission. Et qu'est-ce que je transmets aux étudiants? Je transmets mon expérience en tant qu'écrivain. Ce sont des cours d'écriture. C'est dommage de garder ça pour soi. Voilà, c'est juste dommage. Ça serait du gâchis. Évidemment, je peux l'écrire, faire un manuel, peut-être que je le ferai un jour. C'est pas pareil. Mais transmettre oralement les choses à des gens beaucoup plus jeunes, je trouve que je regrette pas parce qu'à chaque fois, je reçois des lettres, des années après, de tel ou tel ou tel étudiant qui me disent, j'ai écrit mon livre. Voilà, je vous l'envoie. Je me dis, ça n'a pas été vain.
You have given me the greatest possible happiness. You have been, in every way, all that anyone could be. I know that I'm spoiling your life. And without me, you could work. And you will. I know. You see, I can't even write this properly. What I want to say is that I owe all the happiness of my life to you.
La lettre d'adieu de Virginia Woolf, incarnée par Nicole Kidman, à son mari Léonard avant son suicide par noyade le 28 mars 1941, dans la scène d'ouverture du film que tout le monde devrait voir pour être armé dans l'existence, selon vous, Pierre Assouline, The Hours de Stephen Daldry, sorti en 2003, adapté du roman homonyme de Michael Cunningham. Il y a Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep et Les Heures, c'était le titre provisoire de Mrs. Dalloway, ouvrage autour duquel gravitent les trois héroïnes. Pourquoi ce choix?
C'est un film admirable, admirable à tout point de vue. D'abord, en écoutant, la première chose, la qualité de la langue. Parce que on oublie, hein, au cinéma, on parle, au théâtre aussi, et quand il y a un texte où la qualité de la langue s'impose, et là c'est la langue anglaise que j'admire par-dessus tout, que je pratique, que je lis, que j'aime depuis très très longtemps... La qualité de la langue anglaise dans ce film est admirable. Donc il y a déjà ça. Ensuite, on a entendu aussi la musique de Phil Glass. bon, une musique répétitive, hein, mais qui est en parfaite osmose avec, avec le film, qui est très très bien joué par les actrices que vous avez citées. Bon, il se trouve aussi que je suis un fan de Virginia Woolf, donc il y a ça aussi. Mais je trouve que ce film est d'une, à la fois d'une beauté, d'une émotion, mais d'une intelligence, parce que c'est quand même une mise en abîme d'un roman dans un film. Le roman, c'est Mrs. Dalloway, comment il résonne chez trois femmes différentes à trois époques différentes. La résonance d'un roman chez un lecteur ou une lectrice, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire que quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez à peine, et puis au bout d'une demi-heure, il vous dit « Ah, écoutez, moi aussi j'ai adoré Mrs. Dalloway », eh bien tout de suite, il y a une communion qui se crée entre vous, entre les deux. Et on peut se parler à travers une œuvre, parce qu'on a une sensibilité commune par rapport à cette œuvre. Alors si vous me dites, Eva, que vous, The Hours, c'est un film qui vous a marqué, je pense qu'on peut en parler pendant des heures, si vous voulez. D'ailleurs, je le vois une fois par an à peu près.
C'est fou, comme un rituel.
Ah oui, oui. Vous savez, il y a une phrase de Suran, vous avez cité Suran au début.
Oui, c'est un de mes chouchous.
Il y a une phrase de Suran que j'aime bien. La musique, c'est ce qui nous aide à être un peu mieux malheureux. Eh bien, c'est du Suran tout craché. Hein. En écoutant tout à l'heure Fine Glass, et l'extrait que vous avez choisi, ah, je me dis, il y a de ça. Parce que moi, j'ai un ami, par exemple, qui m'a dit... Enfin, je sais que lui, on est devenus amis tout de suite, parce qu'un jour, il m'a dit « Je regarde ce film une fois par an et je pleure comme jamais. »
Ah oui, j'ai pleuré comme jamais en le visionnant pour l'émission.
Ah, je suis désolé.
Non, mais parce que... Alors, il faut quand même le dire pour les auditeurs. C'est quand même beaucoup de gens dépressifs, dont beaucoup pensent au suicide. Certains passent à l'acte, d'autres non, d'autres choisissent la vie.
Moi, je pense pas à la dépression quand je vois ce film. Évidemment, elle est là. Elle est là, la mélancolie est là. Mais, parce que dépression, c'est déjà médical.
Mais Julianne Moore qui prend...
Ah, c'est terrible.
Oui.
C'est terrible, parce qu'elle a un enfant.
Elle a un enfant.
Mais c'est un film qui... Évidemment, qui devrait parler à toutes les femmes, mais pas seulement aux femmes.
Non, enfin, pas seulement. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes qui,
bien sûr que non.
qui veulent
non.
ou passent.
Et d'ailleurs, ce film est tellement extraordinaire, tellement admirable, que Stephen Daldry n'a rien fait de mieux après. Quand on réussit un très très grand film d'emblée, après, c'est terrible. Ça, parce que ça met la barre très haut. Et non, moi, je vais le revoir ce soir.
C'est pour ça qu'il est plus prudent de ne pas avoir trop de talent. On reste à l'abri. J'implore la clémence pour mon allemand. Wir letzte Lieder de Richard Strauss par le Gewandhaus Orchester de Leipzig, dirigé par Kurt Masur, air interprété par la soprano Jessie Norman, air composé en 48. C'est le testament musical du compositeur décédé en 49 à 85 ans. Un mot sur ce choix, Pierre Assouline, qui est ce que vous recommandez de beau aux auditeurs?
C'est bon, les leaders. Moi, j'aime beaucoup les leaders. Hein. C'est mais pendant longtemps, j'ai préféré les Kinder Toten Lieder de Mahler, mais qui sont d'une tristesse absolue parce que ce sont des chants sur un enfant mort. Après, bon, je place à part Schubert parce que pour moi, c'est un dieu vivant et notamment le Voyage d'hiver. Enfin, c'est mais les Fearless Leader de Strauss. C'est à part, parce qu'il y a une poésie. Alors évidemment, si on comprend l'allemand...
Hermann Hesse a participé, je crois.
Oui, mais si on comprend l'allemand, évidemment c'est un plus, mais on peut ne rien comprendre, ça n'a pas d'importance. On peut le saisir autrement. Non, c'est... Écoutez, moi j'ai compris une chose récemment, qui peut être évidente ou pas, j'en sais rien. La musique en soi n'est pas triste. Elle n'est rien du tout. C'est l'effet qu'elle produit sur nous qui la rend triste. Mais en soi, les Fearless Leaders, c'est ce que c'est, mais ça a de caractère de tristesse éventuelle, uniquement parce qu'on le lui confère en fonction de l'impact que ça a sur notre sensibilité à nous.
Pierre Assouline, on arrive à la fin de cette émission et je demande aux invités un engagement. Et vous avez répondu ceci, celui de demeurer fidèle à ma devise, fais ce que doit, advienne que pourra. Alors elle est attribuée à divers personnages
dans l'histoire. Moi je crois
que c'est Kant,
c'est pas Kant ?
Ah oui, bah, c'est le seul que je n'ai pas trouvé.
Ah ben moi, pour moi c'est Emmanuel Kant, mais
ah oui,
j'en sais rien en fait.
Moi, j'ai trouvé plein d'autres noms. C'est bon, parlons plutôt de cette devise qui est assez stoïcienne finalement, c'est-à-dire vous faites ce qui est en votre pouvoir, puis le reste ne dépend pas de vous.
Pas tant en mon pouvoir, en ma conscience. J'obéis à ma conscience. Fais ce que dois, c'est ce que mon devoir...
Oui, la notion de devoir.
Voilà, oui, mais mon devoir par rapport à ce que je suis, à mes convictions. Donc, fais ce que dois, advienne que pourra. Ma conscience me dicte d'agir ainsi. Je le fais sans me demander, mais qu'est-ce que ça va provoquer, etc., etc. La seule chose qui tempère ça, c'est ce qu'avait dit Max Weber sur l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité.
Mot parfait. Merci beaucoup, Pierre Assouline, d'être venu dans l'émission. Votre dernier roman, Le Paquebot, est paru chez Gallimard le 17 mars dernier. On peut lire vos papiers dans la revue L'Histoire et dans L'Express et sur votre site La République des Livres. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous aurez la grâce d'un haricot de soja incarnant la reine de la nuit dans La Flûte enchantée. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.